Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulhien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je suis à Bettencourt en Valois, dans l'atelier du peintre et du sculpteur, monsieur Yann Morel. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'oreille dans le coin. Avant de parler, s'il vous plaît, monsieur Morel, de votre parcours artistique, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux auditeurs ?
Oui, bonjour. Écoutez, je suis un joyeux retraité. Avec de multiples activités comme tout retraité qui se respecte, à la fois toujours gérant d'une société, développeur donc d'activités dans le domaine de la peinture et de la sculpture. Je suis également collectionneur d'art brut et d'art premier. Je m'occupe également de la promotion de travaux faits par les handicapés. Enfin voilà, il y a de quoi s'occuper.
Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez expliquer comment vous êtes venu à la peinture, puis à la sculpture ?
Bien, tout ça, ça remonte il y a très très longtemps. Je devais avoir 15-16 ans, quand un professeur de dessin au lycée nous a fait aimer la peinture. Donc il a généré cette passion sur de nombreux élèves. Donc c'était avant mai 68. Il nous a fait découvrir à la fois la musique, le jazz en particulier, le droit de fumer dans sa classe, ce qui n'était pas très permis. Il n'y avait pas encore de hashish à l'époque. Mais enfin, le point de vue important, c'est qu'il nous a fait aimer la peinture à travers une approche très didactique des choses. Donc c'est comme ça qu'il nous a donné ce fameux virus qui m'a plus quitté pendant toute ma vie.
Vous avez peint très jeune, dès l'adolescence ?
Oui, absolument. J'ai même fait déjà des expositions à l'âge de 20-25 ans. Avant de partir en Afrique, j'avais déjà fait deux ou trois expositions sur la région parisienne.
D'accord. Alors, peut-on dire que, à l'époque, votre style de peinture, on l'a classé dans la semi-figurative ? C'est exact ou pas ?
Non, on peut. Enfin, pour le grand public, c'est plutôt de la peinture dite abstraite. En fait, ce que j'essaye de faire en résumé, c'est de donner une sensation. C'est-à-dire que quand je peins quelqu'un, je ne peins pas son portrait, mais la façon dont je le perçois, dont je le ressens, ou le sentiment qu'il m'a donné. Ou alors, à l'inverse, c'est à travers ce portrait, ce que le spectateur, celui qui voit, est la perception du personnage que j'ai voulu peindre. Donc ce n'est pas du tout figuratif, c'est plutôt du ressenti.
Avec une combinaison des couleurs assez importante ?
La couleur est très importante, dans l'harmonie en particulier, mais ce qui compte, c'est surtout la structure du dessin. À la fois, ça peut être violent, ça peut être tendre, ça peut être doux, ça peut être monochrome dans certains cas. Je me suis effectivement servi de la peinture comme d'art-thérapie au moment du décès de mon épouse, où j'ai consacré un nombre très très important de dessins pour purger tout ce qu'il y avait dans la tête lié au décès et à la maladie.
D'accord. Est-ce qu'il y a une peinture en particulier dont vous voulez parler aux auditeurs qui vous tient à cœur ou qui a plu peut-être au public ?
C'est compliqué. Non, je dirais que l'œuvre qui m'intéresse le plus, c'est la prochaine. Donc, en fait, je suis en train de travailler dans ma tête au portrait justement ressenti d'un couple d'amis qui sont des châtelains en Mayenne. Et donc, j'ai une idée de faire leur portrait, de leur offrir en plus après. Surtout sur les moments qu'on a passés ensemble. Donc c'est à la fois un portrait, je dirais, physique, mais également un souvenir de tous les moments qu'on a passés ensemble.
Alors deuxième passion, deuxième art, c'est la sculpture. C'est venu après la peinture ou en même temps ?
Ah, c'est venu après. Le fait générateur, ce qui est assez curieux, c'est un film avec Lino Ventura et Alain Delon qui s'appelle Les Aventuriers, où il y avait une petite actrice, je me souviens plus de son nom, c'est Chimkus ou un nom comme ça, qui faisait de la sculpture à partir de tôles soudées, un peu dans le style Calder. Et je me suis dit, tiens, un jour, il va falloir que je me fasse, vu que je passe ces moments-là. Hélas, dans mon éducation, je n'ai pas appris à souder. Mais enfin, bon, c'est pas grave, il y a des professionnels en la matière que je sollicite régulièrement.
Comment vous travaillez ? Vous récupérez en fait des choses que les gens jettent dans les poubelles, tout simplement ?
Oui, donc je fais la tournée des ferrailleurs et fouiller un peu dans tous ces amas de ferraille. Je trouve des trucs très très intéressants. J'ai été chez des fabricants de flacons de verre et j'ai été farfouillé dans les bennes à ordures. Là aussi, il y avait des morceaux d'essai de verre, des consistances absolument extraordinaires. C'est pas encore du verre, c'est plus du sable, c'est entre les deux, avec des formes absolument fabuleuses. Donc, à partir de ces pièces, c'est d'essayer de créer quelque chose. Et c'est là où l'imagination est sollicitée. Donc le principe est très simple, c'est j'ai dans ma petite tête toujours toutes ces pièces-là qui sont dans ma tête et j'essaie de les assembler physiquement déjà et puis intellectuellement également en disant tiens ces deux pièces-là ça pourrait peut-être faire quelque chose et donc je vais essayer et si ça passe ben je continue, je développe.
D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que ces amas de ferraille ont déjà été façonnés par l'homme.
Absolument. Donc, c'est de redonner une vie à des objets qui ont déjà eu des vies antérieures. Et c'est de leur redonner une vie pour, ben, j'espère, pour 30, 40, 50 ans plus tard.
Quel outil, quel matériau vous utilisez ?
Ben, les matériaux, c'est simple. Hein, c'est des bouts de ferraille, c'est du bois, c'est du verre, c'est n'importe quoi. Ça peut être du plastique. Et j'utilise beaucoup de collage. Et puis, dans le cadre de soudure, donc là, je fais appel à des professionnels parce qu'il faut du matériel, d'une part. Et puis, c'est un métier à part. Donc, quand je fais faire une soudure de corde de chasse, par exemple, ben, il faut braser et la brasure est un métier à part de la soudure.
Vous écoutez actuellement l'interview de Yann Morel, peintre et sculpteur basé à Bettencourt en Valois. Devant nous, on a une de vos œuvres qui a pour nom Rencontre. Est-ce que vous pouvez la décrire, s'il vous plaît ?
Alors, c'est en fait un assemblage de trois pinces de forge, quelques clous, ce qu'on appelle une queue de cochon. C'est dans le cadre de la fabrication de charnières et de volets. Donc, le terme de la rencontre, ben, c'est l'imagination qui fait travailler. C'est peut-être deux personnes qui se rencontrent, qui discutent, qui ont des formes tout à fait différentes, pas complémentaires, mais différentes, qui a comme particularité sur une partie donc d'être mobile. Donc, ça peut être deux personnes qui discutent, qui gesticulent. Et puis, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Ça, c'est le propre même de la sculpture.
On retrouve un petit peu un côté humain dans cette œuvre.
Oui, toujours. Il y a toujours une référence humaine, bien entendu, parce que mon objectif, c'est d'intéresser le public et de leur faire ressentir quelque chose. Donc, de reprovoquer soit un rire, soit une raillerie, soit un étonnement, soit une interrogation, en disant « tiens, c'est quoi ?» Et donc, c'est un peu cet art de provoquer une réaction, surtout dans un monde qui est tout de même très, très dur et très conventionné et conventionnel. Il faut ouvrir un peu les portes et surtout ouvrir son esprit, d'être beaucoup plus curieux et ouvert aux autres.
Dans l'introduction, Monsieur Morel, vous nous disiez que vous étiez amateur d'art brut et d'art premier. Est-ce que vous pouvez un petit peu définir ces deux notions, s'il vous plaît ?
Alors, l'art brut, c'est l'art fait par des handicapés essentiellement mentaux, mais ça peut être également ce qu'on appelle vulgairement des fous, donc des aliénés. Ce qui m'intéresse à travers leurs œuvres, c'est en fait qu'ils nous dévoilent une autre partie de nous-mêmes, l'autre face que nous cachons, que nous avons parfaitement masqué. Et donc, c'est un reflet, je dirais, de ce qu'est un autre volet de l'être humain. Et dans l'art premier, donc c'est ce qu'on appelait avant l'art nègre, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est tout ce qui vient des peuples dits primitifs. En fait, ce qui m'intéresse comme l'un comme l'autre, c'est tout le passé commun que peut avoir l'humanité. Parce qu'en fait, l'humanité se pose toujours les mêmes questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Et chacun va chercher au fil du temps et de l'espace quelque chose donc qui nous relie. Et cette absence justement de vision globale est fortement intéressante, puisque en fait ma recherche est de savoir qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'art du Sepik, donc au fin fond de Bornéo, et au fin fond de l'Afrique, de même que chez un handicapé trisomique par exemple. Il y a, ce qui est très très intéressant, des grands points communs, et en fait c'est ce qui relie toujours l'humanité, quelle que soit l'époque et quel que soit l'espace.
D'accord. Donc vous collectionnez des objets par rapport à ces deux types d'art, c'est ça ?
Ben oui, ça c'est également une passion. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois le côté non pas spéculatif, c'est pas l'important, c'est à quoi ont été fabriqués tels ou tels objets, à quoi ils ont servi. Et surtout de revoir, je dirais, là aussi, le travail de la main de l'homme, et de savoir, eux aussi, ils ont fait la même démarche que moi, c'est-à-dire d'assembler plusieurs pièces ensemble pour fabriquer quelque chose. Donc toujours cette notion de création et d'imagination.
Vous chinez beaucoup dans les brocantes, dans les salons d'art ?
Non, j'ai arrêté, parce que ça déborde un peu de partout. Donc là, je suis au contraire maintenant dans une phase où je vais me séparer d'objets pour ne garder que l'essentiel, faire un peu de place pour de nouveaux objets certainement.
En 2000, Monsieur Morel, vous avez reçu le prix de l'œuvre pour une exposition que vous avez effectuée avec le collectif Adaïs.
Tous les ans, cette association organise une très grande exposition à l'église Saint-Pierre à Senlis, où plusieurs peintres professionnels et amateurs, sculpteurs, voire artisans, viennent exposer. Et j'ai eu cette chance-là donc, d'obtenir ce prix de l'œuvre sur papier, à mon grand étonnement d'ailleurs. Bon, c'est bien, c'est une forme de reconnaissance. Surtout que ça a été sélectionné par des peintres professionnels. Donc, il y a une certaine dose d'objectivité. Et en même temps, l'un des peintres d'art brut a obtenu le prix spécial du jury, puisque j'avais organisé, en accord avec les organisateurs, une exposition de plusieurs peintures de ces artistes, disséminées parmi les autres promoteurs. Et donc, Gilles Merceron, à l'époque, donc, avait obtenu ce prix spécial du jury. Donc là aussi, reconnaissance de la qualité de l'œuvre par des peintres professionnels.
Qu'est-ce qui vous inspire actuellement, Monsieur Morel ? Il y a un peintre, il y a une œuvre, il y a un sculpteur qui vous donne envie de créer prochainement ?
Alors, le peintre que j'admire le plus, c'est Zhao Fuqi. Peintre chinois, hélas décédé, qui a créé toute une œuvre absolument fabuleuse dans la jonction entre l'œuvre de l'art contemporain et de la tradition chinoise. Donc avec toute la culture chinoise, la culture européenne, il a réussi à en faire l'osmose, et avec une œuvre absolument fabuleuse, extraordinaire. J'ai eu un moment une attache avec Soulages, mais bon, son œuvre un peu répétitive autour du noir absolu, bon, c'est, je comprends sa démarche, mais c'est un peu, pour le spectateur, c'est tout de même un peu fatigant. Par contre, j'ai adoré ses gravures qui sont absolument extraordinaires. Voilà, bon, après je peux vous parler d'Artung, de Rothko, des gens comme ça, de la peinture américaine, qui est hélas peu connue en France, et de temps en temps, quand je vais au MoMA à New York, j'ai la chance de découvrir des peintres absolument extraordinaires. Il y a eu une très grande exposition de Kooning, par exemple, dans ces dernières années, qui a été absolument fabuleuse. Bon, mais là, avec le MoMA, le problème, c'est qu'il y en a trop. Il y a trop d'œuvres d'un seul coup. Et il y a une forme de lassitude qui peut être générée à ce moment-là. Mais bon, c'est la taille à l'américaine.
Bah, Monsieur Morel, merci de m'avoir reçu ici dans votre atelier à Bettencourt en Valois. C'était un plaisir de faire connaissance avec vous et surtout avec votre travail.
Et bien, c'est moi qui vous remercie. Surtout, portez-vous bien dans cette période difficile.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc à Bettencourt en Valois, dans l'atelier du peintre et du sculpteur, Monsieur Yann Morel. Merci de votre écoute. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.